Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment sortir du retard académique au sein des universités? Sur le thème du Grand Dialogue de ce soir, le saviez-vous? Des élèves ayant obtenu le baccalauréat l'année dernière n'ont toujours pas commencé les cours dans certaines universités. Depuis l'avènement du système LMD, licence, master, doctorat 2007-2008, dans des facultés publiques du Mali, les retards académiques sont devenus de plus en plus fréquents dans des facultés. Quelles sont les causes de ce retard? Quel impact sur les étudiants? Comment y faire face? On en discute dans ce grand dialogue avec nos invités. Docteur Aboubakar Abdelwahidou Maïga, secrétaire principal par intérim de la faculté de lettres, de langage et des sciences de langage, des lettres et des langues et des sciences de langage de Bamako. Docteur Abdoul Karim Djamoutene, enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako. Boubacar Garba Koulibaly, secrétaire principal du comité AIM, Association des élèves et étudiants du Mali, de la faculté de sciences administratives et politiques de Bamako. Je suis Imran Akilou Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Docteur Aboubakar, dites-nous pourquoi des élèves ayant obtenu le baccalauréat depuis 2020 sont toujours, ne connaissent toujours pas leur classe.
Bonjour d'abord tout le monde. Et merci pour l'invitation. Et c'est vrai, aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème vraiment très délicat au niveau des différentes universités du Mali. En ce qui concerne particulièrement l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, dont j'ai pu parler ici, c'est vraiment un cas qui est lié à un problème indépendant des autorités universitaires, parce que on devait commencer l'année à partir du 4 avril et des cours avaient déjà commencé à notre niveau. 4 avril 2021. Et on avait commencé une première semaine déjà de cours. On entamait tout juste la deuxième semaine quand les syndicats du comité SNEPSUP de la faculté des lettres, des langues et des sciences de langage a déclenché justement une grève justement pour revendiquer à raison, il faut le dire, à raison les paiements des heures supplémentaires et puis des heures supplémentaires qui étaient en retard, c'est-à-dire 2018-2019, et puis les paiements aussi des copies corrigées du second semestre de 2018-2019, puis du premier semestre de 2019-2020. Et faute de quoi, ils ont décidé de suspendre les cours au niveau de 2020-21. Et en maintenant toujours les cours au niveau de 2019-2020.
Qui continue.
C'est-à-dire qu'au niveau de la licence D, de la licence 3, nos enseignants continuent même aujourd'hui à faire les cours pour terminer l'année. Mais 2020-21, ils ont décidé de suspendre
pour
les cours là-bas.
Terminer l'année 2019-2020.
Oui, pour terminer l'année 2019-2020.
Qui est toujours en cours.
Qui est toujours en cours. C'est-à-dire qu'au niveau de notre faculté, la première année a terminé en fait. L'année universitaire 2019-2020, et on pouvait poursuivre, on pouvait faire la rentrée, en fait, de la première année 2020-21. On avait déjà commencé. Mais à cause justement de la grève déclenchée par le comité syndical, on ne parvient pas, en fait, à assurer les cours parce qu'il a été décidé de suspendre les cours au niveau de 2020-21. Tandis que les cours continuent au niveau de la L2 et de la L3 au niveau de l'année 2019-2020. Donc, ce qui pose un gros problème, en fait, au niveau de la rentrée de 2020-21, parce qu'il faut le dire, bientôt, on va peut-être assister au bac 2021, et les bacheliers de 2021, si on ne fait pas attention, étudiants de 2020. Et
alors qu'on n'a pas ouvrir, encore bouclé l'année 2019-2020.
on va boucler. Chez nous, quand même, l'année 2019-2020 tend déjà vers sa fin. Au niveau du département lettres, par exemple, l'année 2019-2020 est déjà bouclée. Maintenant, on attend les différents départements qui sont les départements anglais, les départements arabes, département russe, sciences de langage, et puis les départements d'études germaniques qui sont en train de parachever actuellement leurs cours au niveau du semestre 6. Vous voyez. Donc, le problème est là et nous en sommes conscients. Mais comme on l'a dit, nous n'avons pas toutes les clés, en fait, de la solution.
Alors, docteur Diamoutene, est-ce que c'est la même situation au niveau de la faculté de sciences économiques et de gestion?
Ok, merci, M. Maïga. Je profite pour remercier l'ensemble des auditeurs. Et je dirais que c'est presque la même réalité. Hein. Et peut-être que l'ampleur peut être différée d'une faculté à une autre. Et au niveau de la FSEC, c'est un cas à part. Vous savez, lorsqu'on veut mener... C'est ce que je veux dire. Lorsqu'on veut mener l'analyse sur la situation universitaire au niveau du Mali, il faut mener l'analyse de la FSEC à part. Ça n'a rien à voir avec les autres. Parce que nous, l'effectif que nous avons peut même doubler l'effectif de certaines universités de la place. Nous sommes une seule faculté. Donc, mais d'entrée de jeu, vous avez posé la question de savoir le retard un peu. Mais n'oublions pas que nous étions dans une situation pandémique tout à l'heure. Et Covid, donc qui a fait que les écoles ont été fermées pendant un bon bout de temps. Et donc après la reprise, il fallait tenter de rattraper. Et donc du coup, comme il a dit, le bac ayant eu lieu, vous voyez que l'année dernière n'a pas été épuisée comme on l'aurait souhaité.
Donc chez vous, encore les premières années de 2020 n'ont pas encore de 2020 n'ont pas encore commencé.
Ils ont commencé il n'y a pas aussi longtemps que ça.
Quand ?
Je crois à peine 1 à 2 mois, quelque chose comme ça, 2 mois environ. Ils ont commencé. Mais au fait, comme je disais que la FSEG est un cas à part, permettez-moi de rappeler un fait. Parce que ce qui est important, qu'on sache là où, pourquoi nous sommes arrivés là. Vous savez, dans ce pays, apprenons à initier de très bonnes réformes. Lorsqu'on les entreprend, il faudrait les achever. Et les assises de 2008 sur l'éducation, la réforme de l'éducation, où ils ont, au niveau du lycée, essayé d'envoyer certaines filières, terminale sciences économiques, TSS et d'autres expérimentales, etc. Maintenant, nous, c'est la FSEC, tous ceux-là qui vont en TSECO n'ont autre débouché que la FSEC. Et je vous dis, de 2014 à maintenant, chaque année, nous prenons environ entre 83% et 93% de tous les bacheliers qui sortent de TSECO. Ils n'excluent pas également que ceux qui ont fait...
Effectif pléthorique.
Je vais vous donner même les effectifs, ceux qui sont arrivés chaque année, je vais vous donner. Et nous prenons encore sciences expérimentales, sciences exactes et d'autres. Et en 2014-15, nous avons reçu 4926 bacheliers, une faculté. L'année qui a suivi, en 2015-16, nous avons reçu 6137 bacheliers. Et en 2017-18, nous avons reçu 8286 bacheliers. En 2018-2019, nous avons reçu 5884 bacheliers. Et en 2019-2020, nous avons reçu 6285. Et cette année, actuellement, les inscrits, nous sommes autour de 6750 quelque chose. Imaginez, vous voyez tout ça. Donc, ça fait que les inscrits, déjà, nous sommes à plus de 30 000, 37 000 étudiants. Sinon, entre 40 et 50 000 étudiants, une seule faculté. Imaginez, les infrastructures sont inexistantes. Vous connaissez le Mali, tout comme moi, il faut qu'on se dise la vérité. Depuis des années, aucune réalisation. Les mêmes locaux sont là et on nous demande, en tant que responsable des différentes structures, en tant qu'enseignant, de gérer ça. Je vous dis, au niveau de la FSEC, souvent pour réaliser souvent des TD, des travaux d'IG, nous attendions souvent l'hivernage pour aller emprunter, n'est-ce pas, et demander pardon à certains lycées, à Kalabankoura et autres, pour qu'ils, lors des périodes de vacances, pour qu'ils puissent nous permettre souvent d'effectuer certains travaux d'IG. Donc, dans ces conditions, pareil, est-ce que la volonté, elle suffit? C'est-à-dire qu'au fait, des décisions ont été prises, et je dirais que des mauvaises décisions, parce que pour un pays comme le Mali, on ne peut pas comprendre que la base de l'économie étant beaucoup plus rurale et autre chose, qu'on aille spécialiser les gens uniquement dans le secteur tertiaire et en amont, en aval, on ne prend pas de décision pour les recueillir. Donc tout ceci constitue de véritables problèmes, plus la pandémie, n'est-ce pas, de l'année dernière,
Donc ça fait que souvent il y a des chevauchements, il y a assez de chevauchements d'années. Heureusement que nous sommes dans un système LMD qui est assez flexible, qui permet un certain rattrapage. Voilà, je pourrais peut-être éventuellement m'arrêter là.
Boubacar Garba Koulibaly, vous représentez les élèves et étudiants sur ce plateau. Comment vous vous sentez quand vous voyez encore vos petits frères qui ne sont pas encore entrés en classe jusqu'à présent? Quel sentiment?
Ok, merci bien. C'est vraiment tout d'abord un sentiment de regret. Un sentiment aussi de compréhension. Et des soirs, vu que faire les examens du bac et d'autres examens de fin d'année de 2020 étaient presque non probables. Mais c'est avec beaucoup d'efforts consentis par les acteurs de l'école pour atténuer vraiment la grève de la synergie, on se souvient, plus la situation de la pandémie qui ont beaucoup joué et abouti vraiment à un retard excessif. Malheureusement, ça a été fait. On a eu vraiment les résultats du bac. Le retard sur le retard ne pouvait être vraiment inévitable. Cette année, nous sommes bientôt à un nouveau bac. Au niveau national, nous sommes bien conscients du problème et des enjeux qui sont là. Et avec des efforts aussi, nous sommes en train vraiment, à travers les comités locaux, de mettre des pressions pour pouvoir parachever vraiment l'année 2019-2020. Pour pouvoir vraiment commencer la nouvelle année académique 2020-2021.
Et ça, déjà, c'est... au niveau de votre faculté de sciences administratives et politiques, vous êtes en quelle année de...
Voilà. Moi, je suis actuellement en licence 3, sociologie politique.
Quelle année est en cours?
Et nous sommes en fin d'année 2019-2020 et début de l'année 2020-2021. C'est-à-dire, je m'explique, et hier récent tout près, il y a eu des résultats définitifs des semestres 1 jusqu'à 6. C'est-à-dire, cette année, c'est clos. Nous, nos nouveaux bacheliers, les promotions 2020, ont commencé à prendre cours il y a de cela un mois. Avec un petit retard.
Quel impact cette situation peut-il avoir sur l'esprit des élèves?
Oui, bon... Avec le courage et la communication, malgré qu'ils n'étaient pas en classe pour des cours pédagogiques, mais ils étaient animés vraiment de l'espoir, tout sauf que du découragement. Cela s'explique même par l'engouement aussi de venir à l'université. Et nous qui sommes là pour les servir, nous les soutenons aussi dans cette optique en leur donnant, par exemple, nos brochures, nos copies des matières dont ils devront faire face pour qu'ils puissent avoir un petit goût en se préparant à travers seulement ce qu'est la lecture, à travers des ouvrages. Car aussi, notre université aussi, et bien d'autres universités, le cas de l'USJPB, les trois facultés qui sont dans cette université sont, à part une seule faculté qui est un peu en retard, nous sommes tous presque en même longueur d'onde. Cette faculté, ça, c'est la FDP. Et ça, c'est des problèmes entre décanat et autres personnels là-bas qui a joué aussi sur cette année. Sinon, la FDP, la FSAP, nous avons pu en réalité parachever la nouvelle année. Nous sommes à un début de nouvelle année. Et vu que nous sommes du bureau national, nous ne s'arrêtons pas aussi dans nos facultés. Nous sommes représentés même à l'université de Ségou, dont les nouveaux bacheliers ont commencé leurs cours bel et bien, ça va un mois et plus. Que ce soit au niveau de l'ISGB, l'UG, le dimanche tout passé, il y a eu le test d'entrée là-bas, dont nous osons espérer dans un bref délai, il y aura ces résultats des étudiants et retenus pour qu'ils puissent commencer. Mais les autres années antérieures, ils sont tous presque finis. Les promotions 2018 là-bas sont tous en L3. C'est des promotions 2017 là-bas sont tous en session.
Ah, docteur Aboubakar, est-ce que y a-t-il des universités publiques épargnées par ce retard?
Bon, à ma connaissance, aujourd'hui, il me semble qu'ils sont tous dans les mêmes bateaux. C'est toutes les universités du Mali qui pâtissent aujourd'hui de ces problèmes de retard. Et mon collègue et puis notre étudiant aussi l'ont évoqué. Et la pandémie de la Covid en est pour beaucoup aujourd'hui dans les retards que nous connaissons. Mais il faut quand même reconnaître que même sans la Covid, il y a beaucoup d'universités qui marchaient déjà en décalage par rapport à l'année académique normale que nous connaissons dans les autres pays.
Les universités privées utilisent-elles un système différent que celui des universités publiques?
Non, mon collègue l'a dit, les universités privées ont d'autres moyens. Elles ont d'autres effectifs réduits et puis plus peut-être convenables à leur politique. Vous voyez, nous, à notre niveau, c'est public. On ne peut pas fixer des quotas. Vous fixez un quota et c'est encore les ministres ou bien les autorités étatiques qui viennent vous dire d'accueillir tout le monde. À un moment donné, quand on était encore sur la colline avant d'aller à Kabbala, on avait fixé un quota et on ne voulait plus recevoir d'étudiants au-delà de ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, le ministre de l'enseignement supérieur est venu sur la colline de Badalabougou pour nous dire de prendre tout le monde. Et on leur avait dit que si on prenait tout le monde, on allait être confronté à des problèmes de paiement d'heures supplémentaires, parce que plus l'effectif augmente, plus il faut encore des groupes. Il faut créer des groupes au niveau des classes pour mettre les étudiants dans les conditions plus ou moins, je l'ai dit, hein, plus ou moins optimales pour pouvoir donner les cours. Et chaque groupe, au niveau de chaque groupe, il faut appliquer la maquette. Et chaque maquette aussi engendre des coûts supplémentaires au niveau des heures supplémentaires. Et l'État ne s'engage pas à accompagner les universités sur le plan en fait, de l'enveloppe allouée. Il dit que l'État ne s'engage pas à accompagner les universités au niveau de l'enveloppe allouée en fait, au paiement des heures supplémentaires et des copies corrigées.
Et qu'est-ce que les universités également font par rapport à ça?
Les universités font ce qu'elles peuvent. On donne les cours, après on envoie les États pour montrer à l'État en fait l'incidence financière qu'on a eue par rapport aux effectifs qu'on a été obligé de prendre. Lui, il a parlé tout de suite des 6 000 étudiants. Imaginez, 6 000 étudiants, c'est une université, mais au niveau de la première année seulement, vous avez 6 000 étudiants. Il faut combien de groupes en fait pour appliquer normalement les systèmes pour que chaque étudiant puisse avoir comme on appelle les conditions plus ou moins idoines afin d'acquérir les connaissances. Vous allez avoir des groupes, en fait, de 500 personnes. 500 personnes, les professeurs n'est même pas capable de connaître chaque étudiant, de façon individuelle. Nous sommes en train, en fait, de faire semblant en fait d'enseigner au niveau des universités, parce que les moyens, les infrastructures en fait administratives, pédagogiques ne sont pas là en fait pour pouvoir nous donner la possibilité en fait d'avoir la qualité que nous cherchons, que nous prenons et que nous envions aussi au niveau de la sous-région ou bien au niveau de l'international. Mais on essaie quand même de faire avec, mais vous allez voir que chaque année, les universités sont confrontées aux problèmes d'effectifs pléthoriques et puis aux problèmes d'air supplémentaires. Chaque année, ces questions-là viennent. Au début, vous dites d'abord qu'on ne peut pas les accueillir, on vous dit bon, prenez tout le monde. À la fin, vous envoyez les États, vous leur dites, bon, on a été obligé de prendre aussi plusieurs professeurs qui ne sont pas de chez nous, il faut les payer sur les heures supplémentaires, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les professeurs vacataires, c'est-à-dire les professeurs qui nous aident dans les universités, les professeurs vacataires qui nous viennent, en fait, qui sont payés sur les heures supplémentaires, sont plus nombreux que les professeurs permanents qui interviennent au niveau des cours. Et à la fin, et ils s'attendent à être payés. Lorsqu'ils ne sont pas payés, c'est comme si on ne peut pas commencer la nouvelle année. C'est les questions aujourd'hui qu'on tente de résoudre à notre niveau. Les gens ont enseigné en 2018-2019. Ils ont accepté encore d'accompagner l'État 2019-2020. 2019-2020 prend fin, arrive à sa fin, et ils ne sont pas payés au niveau de 2018-2019. Et on leur dit déjà, reprenez encore pour 2020-21. Mais non, ils ont raison aussi, quelque part, soutenir la poursuite des cours, vous voyez.
Jusqu'où cette situation va nous amener dans les universités?
Bon, et franchement, moi je suis de la FSEC. Hein. Je dis, si ça continue comme ça, la FSEC va s'arrêter. On ne peut pas, au fait, cette situation, Dieu ne peut même pas nous donner les moyens de les résoudre tant qu'on n'apporte pas des solutions adaptées. Une faculté où on a entre 40 et 50 000 étudiants, imaginez, est-ce que dans des pays, on n'ose même pas dire ça dans d'autres pays, sous d'autres cieux.
Ce retard existait-il avant l'arrivée du système LMD?
Au fait, pas forcément, parce que d'année en année, l'effectif ne fait que gonfler. Mais venons-en, où on va y arriver? C'est-à-dire, comme il l'a dit, le collègue l'a dit, nous allons faire semblant d'enseigner. Les étudiants vont faire semblant d'avoir un diplôme. Ils n'auront aucun niveau. Le Mali va s'écrouler. Tout court.
Ça, c'est la faute à qui?
C'est la faute, c'est l'autorité politique qui décide. Quand vous décidez de la création de l'université, vous devez donner l'ensemble des moyens matériels et humains pour que l'objectif soit atteint.
Et les enseignants qui font semblant, comme vous le dites?
Non, les enseignants, au fait, moi je vous dis, si vous partez voir les enseignants dans quelles conditions ils exercent, vous allez leur dire merci, leur tirer le chapeau. Parce qu'au fait, ce pays, nous sommes dans un pays, lorsque vous faites face à une situation, le gouvernement communique contre vous. Le Mali est un pays comme ça. Lorsqu'il y a un problème, au lieu que les autorités s'assument, le gouvernement préfère utiliser l'arme de la communication pour montrer que c'est vous qui avez tort. Allez-y voir. Moi, je vous dis, moi, je suis de la FSEC. Dans le cas du LMD, n'est-ce pas, on exige de nous les cours qui étaient programmés avant pour une année maintenant, ce sont les cours modulaires, en 20 heures, etc. On doit avoir la connexion. Moi, je suis de la FSEC, ça fait plus de 3 ans que l'enseignant n'a même pas de connexion. Est-ce que qui peut imaginer ça? Connexion pour que l'enseignant puisse se connecter, qui n'est qu'un simple outil de travail. Nous nous connectons sur la base de quoi? De nos propres connexions nous-mêmes. Allez-y pour d'autres matériaux qui doivent accompagner. Il n'y a absolument rien qui est fait, mais laissons ça. Et regardez les infrastructures, allez-y voir les amphis. C'est-à-dire, il y a toute une politique, comme je l'ai dit souvent dans mes débats, c'est mal conçu. Venons-en à la nouvelle université. Vous savez, ils ont conçu, mais ils ont réformé à partir de 2015, je crois, les universités thématiques. Mais est-ce que c'est sérieux? L'université thématique met l'emprise de certaines universités sur des amphis. On est d'accord? Or, sur des amphis. Or, vous savez, aujourd'hui, vu que nous n'avons pas assez d'infrastructures, il serait important que nous puissions mutualiser. Mais aujourd'hui, pour que même si vous avez un amphi qui est libre, pour que je puisse y accéder, il faudrait d'abord que je passe par une demande, etc., avec toute cette rigidité, etc. Donc, du coup...
Est-ce que par rapport à ça, les universités font des propositions
bien sûr,
à l'État?
Bien sûr, bien sûr.
On fait des ateliers tous les ans.
On fait les ateliers. Au fait, le Mali, le diagnostic est véritablement posé au fait. Mais la décision politique, le problème c'est au niveau de la décision politique. Oui. Les gens viennent au Mali. Ils viennent. Au fait, j'ai l'impression que quand les gens viennent, ils sont ministres, chacun voudrait se défendre et non défendre l'État. Donc du coup, on refuse de prendre des décisions charismatiques. Des décisions audacieuses qui permettraient au pays d'avancer. Et imaginez les grèves des enseignants. Vous avez vu, venons-en à l'enseignement fondamental. Quand vous avez vu la grève pendant combien de temps? À la fin, ils ont colmaté pour accorder ce qu'ils ne voulaient pas accorder. Dans un autre pays, cela ne se ferait pas. Au niveau supérieur, quand vous demandez à des enseignants qui travaillent pendant toute une année, qui corrigent des copies, qui effectuent des heures supplémentaires, le budget souvent leur est attribué au niveau des différents rectorats. Mais souvent, c'est la barrière pour ne serait-ce que simplement avoir ça. Quand aujourd'hui, avec l'autonomisation au niveau des différentes universités, facultés, on ne peut même plus même acheter de par soi-même un BIC avec une certaine rigidité. Ça ne peut pas marcher. On demande aux universités, facultés de générer des fonds. Vous générez des fonds que vous reversez au niveau de vos rectorats respectifs, mais vous ne pouvez même pas avoir 5 francs de ça. C'est la quoi la bannière? Allez-y voir au niveau de l'UG. Des centaines de millions, depuis combien d'années, on n'arrive pas à élucider toute cette situation. Donc, du coup, c'est une volonté politique qui commence depuis le ministère, qui vient au niveau des différents rectorats. Et à la base, nous nous sommes étouffés. Nous ne sommes que des exécutants dont les efforts ne sont pas vus.
D'accord. Alors, Les enseignants font semblant d'enseigner, les étudiants font semblant également de suivre les cours. Quand vous faites 2 ans, 3 ans dans une seule classe, est-ce que vous vous êtes une fois posé la question sur votre avenir?
Oui, bon, là, dans cette optique, l'avenir est vraiment incertain. C'est la triste réalité. L'enseignement supérieur ne peut pas aller en réalité sans les moyens, surtout dans ce monde de mondialisation. En réalité, depuis l'avènement de l'Université du Mali, ces mêmes infrastructures qui étaient là-bas, qui ont été construites entre 1996 et 2000, au temps d'Amadou Toumani Touré, paix à son âme, qui a eu la volonté de nous construire les bâtiments de la FDPRI, de la FSEC, à part ça, pas d'autres constructions, alors que les effectifs montent. En dehors de ça, c'est très normal qu'il puisse y avoir des redoublements ou des ajournements, puisque ça ne va pas du tout. Les enseignants sont débordés, les étudiants sont perdus, alors que l'université, c'est un univers de rencontres pour l'acquisition du savoir, un univers de rencontres, de nouvelles connaissances. L'avenir, l'éducation vraiment étant un maillon fort pour le devenir d'une nation, ça ne peut pas aller sur ses bases. En plus de cela...
Pendant que vous parlez de ceci, votre avenir étant en jeu, qu'est-ce que fait l'AIEM par rapport à ça? Parce que généralement, on voit l'AIEM se tirailler par rapport à des postes au niveau des comités.
Ok. Aujourd'hui, notre association vraiment est rigoureusement dirigée dans sa nouvelle politique qui est de redorer l'image de son association. Ça fait quelques années, l'AIEM ne sort plus. Quand on entend grève, c'est l'UNTM, c'est synergie, c'est les enseignants ou autres. Aujourd'hui, nous sommes d'abord fixé comme objectif de bannir d'abord la violence et de partir vers l'excellence. Partir de l'excellence, ça doit être fait en se trouvant d'abord dans les classes et revendiquer pacifiquement. Même après l'issue, à l'issue de notre dernier congrès du 13 au 14 mars passé, juste une, deux semaines seulement, nous avons fait le tour du pays, faire un cahier d'alliance nationale. Et faire valoir ça à tous les partenaires de l'école. Même hier, tout près, nous étions chez le PM, le nouveau Premier ministre, pour lui faire part de notre cahier d'alliance, en tant que vraiment partenaire de l'école, et aussi vraiment en tant que aussi, comme lui le disait, des acteurs de la société civile, dont sans lesquels la transition ne peut pas partir. Et aussi, on est dans la transition. Il doit avoir aussi transition sur tous les volets, notamment l'axe de l'éducation. Aujourd'hui, nous devons partir vers un nouveau système éducatif, pas seulement à l'université, depuis à bas âge, l'enseignement préscolaire.
Nous allons parler des propositions plus tard. Docteur Aboubakar, on va parler du système LMD. Comment cette réforme est-elle arrivée?
Bon, le système LMD, il faut savoir que c'est un système quand même qui est né en Europe, particulièrement à Bologne dans les années 98. Après, le système a été parachuté, parachuté chez nous dans les années 2000, c'est-à-dire concrètement vers 2005, quand les recteurs de la sous-région se sont concertés pour mettre en place les RESAO, c'est-à-dire les réseaux pour l'excellence dans l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Et en la matière, la faculté des sciences techniques est considérée comme précurseur et pionnière au niveau du Mali, parce qu'il me semble qu'ils ont commencé à basculer vers les systèmes LMD à partir des années 2006-2007 déjà.
2007-2008.
2007-2008. Et j'imagine que certains d'entre nous sont justement les fruits de ces systèmes. Nous,
je me rappelle, nous sommes la première promotion d'ailleurs de ce système LMD.
Au niveau de la
faculté. Au niveau de la faculté de sciences et techniques.
Voilà.
3 ans dans une classe, 4 ans dans une classe, on ne passe pas, on ne redouble pas. Ça vous fait quoi?
Bon,
vous, en tant qu'enseignant.
Bon, au début, les systèmes n'étaient pas du tout assimilés par les enseignants. On a été invités à accompagner et puis à apprendre sur l'État. Au fur et à mesure, on a dû comprendre les insuffisances et puis les corriger progressivement. Au niveau de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, une université aussi qui est née justement de la scission de la Grande Université du Mali à partir de 2011.
Ce système a été imposé au Mali ?
Les systèmes, on peut dire que c'est un système que nous avons adopté pour aller avec la mondialisation, si on peut se le permettre. Parce qu'au début, il fallait passer par les DEUG 1, DEUG 2, licence, maîtrise, puis DA, DS, des fois.
Ce système n'était pas aussi
avec les
mieux
systèmes
que ce
LMD,
système LMD ?
Avec les systèmes LMD, on voulait aller vers la facilitation et puis faire en sorte que nos diplômes puissent être... conformés, puissent avoir leur équivalent dans les autres formations qu'on a dans les autres pays, c'est-à-dire partir déjà de la licence, puis les masters et puis les doctorats. Ça facilitait les choses. Sinon, si vous allez, par exemple, avec les DEUG 2 ou bien les DEUG 1 dans certains pays, on ne sait pas, en fait, quel diplôme vous donner. Donc, il fallait aller avec le rythme, qui était imposé dans les autres pays. C'est pourquoi on a adopté.
Est-ce que le Mali était-il prêt pour ce système ?
Le Mali, aucun pays, peut-être africain, n'était pas prêt. C'est un nouveau système et il fallait y aller. Même en Europe, on a eu beaucoup de difficultés. Les gens sont allés à tâtons et il a fallu du temps pour que les gens puissent s'y habituer. Au niveau du Mali, je pense que le basculement a réellement commencé à se concrétiser à partir de 2014-2015, quand nous-mêmes, au niveau de l'ULSHB, nous avons épousé les rythmes et nous sommes allés petit à petit. C'est en 2017-2018 seulement que nous avons terminé avec nos dernières promotions en fait, du système classique. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, au niveau de notre université, c'est uniquement les systèmes LMD en fait qui est en application. Sinon, et puis ce système a amené encore beaucoup de changements, beaucoup d'innovations, parce qu'il a parlé des cours modulaires, on ne les connaissait pas auparavant, et on enseignait en fait du début de l'année jusqu'à la fin, des fois les mêmes matières, et on allait tout le temps avec les mêmes thèmes, les mêmes sujets, et avec les systèmes modulaires, oui, on enseigne un module en 20 heures, puis on tourne la page, on enseigne un autre, et on tourne la page pendant 30 heures, 40 heures, et ainsi de suite. Et le système aussi a permis, en fait, de diminuer, en fait, l'échec aussi des étudiants, parce que les étudiants étaient des fois à tort ou bien, je ne sais pas, à raison, retenus au niveau des différentes classes, des fois pour une seule matière. Imaginez, pour une seule matière, on peut vous retenir en DEUG 1, par exemple, ou bien en DEUG 2, parce que vous n'avez pas pu valider. Avec les systèmes LMD, c'est une question de crédit. Si vous validez, par exemple, 42 crédits, vous passez. Si vous validez 60 crédits, vous êtes admis. Et vous pouvez passer et venir payer les crédits. Ça, c'est quelque chose de révolutionnaire. Et vous pouvez aussi, comme on appelle au niveau de la licence 3, par exemple, vous pouvez... c'est là où les problèmes se posent. Si vous n'avez pas validé les 60 crédits, là, vous êtes retenu jusqu'à ce que vous les validez. Et il n'y a pas aussi de renvoi, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de renvoi dans les systèmes LMD. L'étudiant peut y rester, seulement il perd la qualité en fait des statuts réguliers. Vous dépassez par exemple les 8 semestres admis au niveau du LMD, vous devenez un candidat libre, mais on ne vous renvoie pas. Vous pouvez revenir en fait vous réinscrire et continuer vos études jusqu'à ce que vous validez tous les crédits. Mais dans les systèmes classiques, ce n'était pas ça. Avec certains nombres de duvets, ou bien duvets, on les appelait encore les unités de valeur, et si vous ne les validez pas, vous êtes exclu. Et les exclus étaient très nombreux.
Les enseignants-chercheurs ont-ils été suffisamment formés par rapport à ce système avant l'application ?
Je ne crois pas. Je suis de la FSEG. Comme il a dit,
en 2014-15, je crois que on était tous obligés, toutes les, après la phase pionnière de la FAST de l'UIG. Bon, les autres facultés ont été astreintes à y aller à partir de 2014-15. Donc, il y a beaucoup de préalables. Il y a même comment enseigner, parce que c'est un nouveau mode d'enseignement, même pour l'enseignant. Donc, il y a un préalable. Je ne crois pas que tout ait été fait. Même si en amont, il y a certains ateliers qui avaient été faits, peut-être à d'autres niveaux. Bon. Mais je reviens par rapport à ce que mon collègue disait tout à l'heure. Aucun pays n'est prêt. Mais moi, je dis aucun pays ne sera prêt par rapport à n'importe quel domaine. Mais dès lors qu'on a la volonté, on doit se donner les moyens d'y aller. Et donc, du coup...
Mais moi, éducation donner alors?
Quelle éducation?
Si on n'est pas prêt, on se...
Non, je veux dire qu'on sera toujours prêt, au fait. Dès lors qu'on a la volonté, parce que moi, je ne sais pas. Parce que même les autres pays qui ont amorcé le système LND sont partis de la même situation que nous. Mais dès lors que l'État décide d'aller vers une direction, l'État doit se donner les moyens politiques, n'est-ce pas, pour qu'on y aille. Le recyclage des enseignants, n'est-ce pas, les moyens financiers qui doivent accompagner toute la logistique, l'État doit mettre. Et surtout, comme il a dit, à partir de 2005, lorsque le réseau a été mis sur pied, mais vous imaginez l'écart entre 2005 et où tout le monde y est allé jusqu'en 2014. Mais si c'est un État qui veut y aller, je crois que l'État doit de manière graduelle se donner les moyens et pour qu'on y aille. Vous savez, le système LMD, vous avez dit tout à l'heure, c'est un système, s'il n'avait pas existé, il fallait le créer. Parce qu'il est tellement flexible. Même en ce qui concerne l'adaptabilité, n'est-ce pas, du système d'enseignement au marché de l'emploi, le système LMD nous donne, nous, en tant que structure enseignante, plus de flexibilité, de maniabilité par rapport à l'ancien système. Regardez aujourd'hui au niveau des différentes facultés. Vous allez voir, il y a assez de formations professionnalisantes aujourd'hui, de master professionnel. Et donc, ça nous donne assez de flexibilité, de souplesse pour qu'on puisse tenir compte de cette réalité. Or, avant, ça n'existait pas. Donc, on ne sera jamais prêt. C'est comme quand une guerre doit vous tomber là-dessus. Quels que soient les préparatifs que vous faites, vous allez faire, vous ne serez pas prêt, mais vous devez faire face à la guerre, vous donner les moyens de réussir. En tout cas, le principal problème que moi, je reconnais quand même, c'est le problème de volonté politique et de gouvernance. Regardez, au Mali, nous devons avoir une capacité d'anticipation, les gouvernants, mais je dis zéro. Regardez, au niveau de la FSEC récemment, si je vous dis que les étudiants sont allés récemment à 112 heures de grève, pourquoi? Rien que pour des travaux d'entretien qu'il aurait fallu faire au niveau des ampoules et autres choses, 112 heures de grève. Mais pourtant, les moyens, tout est là. Mais pourquoi on ne prévoit pas? Pour que l'AIM obtienne gain d'école, pour que les étudiants puissent bénéficier de leurs droits, il faut que l'AIM sorte. Pour que les enseignants puissent bénéficier de leurs propres droits, il faut que le SNESUP ou le SNEC partent en grève. Regardez bien, moi je suis enseignant-chercheur. Nous sommes des enseignants censés former, n'est-ce pas, nos étudiants. Nous avons besoin de recyclage. Mais dites-moi, quelle est la politique de formation à l'endroit des enseignants-chercheurs que nous sommes? Dans ma faculté, même quand tu dois sortir pour une communication ou bien un truc, tu n'as même pas un COPEC pour t'accompagner. Tu es obligé de voyager sur ton propre salaire, tous les moyens, etc. Mais comment un pays qui va aller de l'avant peut aller? Donc, au fait, le LMD, il est tellement exigeant parce que nous demandons à ce que les enseignants, nos étudiants et le Mali puissent être compétitifs. Cela voudrait que les professeurs soient à un niveau extrêmement compétitif. Mais faudrait-il que les moyens puissent être à leur disposition pour leur permettre d'accompagner?
Aboubacar Garba Koulibaly, les deux précédents parlaient des avantages du système LMD. Est-ce que vous, en tant qu'étudiant, vous avez vu des avantages dans ce système-là?
Oui, effectivement. Comme je le disais, face au défi vraiment de cette mondialisation qui s'impose à tous les États, il ne serait-ce que même laissant le reste du monde. Et ce système LMD permet vraiment à l'étudiant malien de partir, de commencer un système au Mali et de l'achever à un autre pays sur l'espace, que ce soit IUMO et CEDEAO, peut-être pourquoi pas à l'Europe.
Partout.
Ça, c'est des avantages. Secondo, ce système LMD permet vraiment que l'étudiant soit au cœur de son avenir.
De l'apprentissage, de l'enseignement.
Oui. Pourquoi de son avenir? Car ce qu'il veut devenir, il choisit, il est libre de choisir cette filière de formation et surtout d'être au cœur des recherches et au cœur à 75% des recherches et de tout ce qui va être pour se former et d'être évalué dans cette optique, obtenir un diplôme et vraiment servir la nation. Mais malheureusement, c'est ces moyens vraiment qui manquent vraiment à ce système LMD. Ces moyens d'infrastructure, ces moyens humains, des enseignants surtout. l'État refuse en réalité de recruter les anciens, de former aussi ces vacataires en les spécialisant, en les recrutant, face vraiment à cette montée grandissante vraiment des nouveaux bacheliers. Et aussi, si c'est obligatoire chaque année qu'il y ait vraiment des milliers de passants au bac, il doit avoir songé vraiment à construire, même si ce n'est pas chaque année.
D'accord.
Périodiquement, des infrastructures pour abriter en réalité et commode à l'enseignement supérieur. Tant de facultés aujourd'hui prennent cours dans les lycées, tant de facultés aujourd'hui sont dans les locations à des bâtiments vétustes inadaptés. Même si on a la volonté, les élèves ont la volonté ou les étudiants ont la volonté vraiment d'apprendre, mais ne sont pas dans les bonnes conditions d'apprendre.
Docteur Aboubakar, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour trouver une solution à ce retard au niveau de votre faculté?
Bon, à notre niveau, je vous l'ai dit, hein, c'est une question surtout syndicale, une question d'ordre administratif. C'est une question qui se gère au niveau du ministère et non plus au niveau même du rectorat, parce qu'il faut que les syndicalistes aillent au niveau du ministère pour se mettre d'accord sur... les paiements de ce qu'ils réclament, les copies corrigées, les heures supplémentaires et ainsi de suite. Sinon, aujourd'hui, ils ont déposé déjà un préavis de grève illimité qui doit commencer à partir du 1er juillet, du 1er juillet prochain. Et je l'ai dit vraiment avec beaucoup d'inquiétude, parce que ça pose problème, ça pose déjà la question même, en fait, de la viabilité de l'année, c'est-à-dire de l'année en cours, 2020-2021. Les risques que nous courons aujourd'hui, c'est de voir les étudiants, les nouveaux bacheliers de 2021, venir s'ajouter, en fait, à ceux qui sont déjà là, qui ont pris une semaine de cours, et on risque de se retrouver, en fait, avec deux licences 1, ou bien une licence 1 avec une année blanche qui ne dit pas son nom. Ça c'est les risques que nous courons actuellement. Parce que bientôt, c'est les bacs et bientôt, les nouveaux bacheliers vont venir. Et nous regrettons beaucoup cette situation parce qu'on avait tous les moyens en fait pour sauver.
Il y a également les bourses aussi à gérer dans ces conditions. Comment les bourses sont-elles gérées avec ce cas de figure?
Les bourses sont gérées au niveau du CNU. Je ne suis pas peut-être habilité pour vous répondre par rapport aux questions des bourses. C'est le CNU qui sait comment vraiment ils vont s'occuper de ces problèmes. Nous, à notre niveau, nous occupons surtout des problèmes pédagogiques. Je ne sais même pas comment le CNU va faire pour mettre les étudiants dans leurs droits quand on sait déjà qu'il y a deux premières années, lesquelles vont bénéficier maintenant des bourses de l'année en cours, ce serait au CNU de décider.
Et qu'est-ce qui est fait au niveau de votre faculté pour trouver une solution à ce retard?
Bon,
faculté de sciences économiques et de gestion.
Comme on l'a dit, c'est l'engagement des enseignants. C'est-à-dire, c'est comme récemment, il y a de cela, je crois, deux ou trois semaines, on s'est réunis. Avec le doyen nous a appelé, il a fait l'état des lieux et donc les enseignants se sont engagés à plus d'efforts. C'est-à-dire on se surpasse pour essayer de pouvoir évacuer. Mais je dis que ça ne résout pas au fait. Moi je disais, j'ai toujours dit souvent à mes responsables, j'ai dit là où vous êtes, si je suis là-bas, moi on résout le problème demain où je démissionne. Parce que dès lors que quand les responsables en amont fuient le problème et en aval vous pensez résoudre. Mais c'est vous qui serez bouffé.
Alors, quel avenir pour ces futurs étudiants qui vivent dans ce retard-là?
Bon, c'est une mauvaise formation par la suite, mais je voudrais dire une chose. Et c'est que, de mon point de vue, pour solutionner cette affaire, d'abord, il faut revoir, réformer en aval au lycée. Les filières qui ont été créées, je suis de l'EFSEC, les filières qui ont été créées, où on oblige les étudiants, une frange importante des lycéens, à aller vers cette filière, ces filières littéraires. Il faut qu'on réforme, c'est une mauvaise filière, c'est une mauvaise réforme qui a été entreprise. Qu'on sache, qu'on le sache et qu'on revienne là-dessus. Deux, il faut décongestionner l'université. Il faut qu'il y ait des universités régionales. Il y en a à Ségou, il faut en créer peut-être à Akai, à Sikasso. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Donc ça promet au moins que chaque université puisse gérer, donc l'effectif sera géré. Et maintenant, il faut revoir, comme j'ai dit, revoir les filières au niveau du lycée et maintenant accompagner, n'est-ce pas, les enseignants pour qu'ils puissent faire face, n'est-ce pas, aux exigences du système LMD.
D'accord. Vous avez amorcé certaines solutions. Quelles solutions aujourd'hui il faut pour ce retard-là?
La solution qui serait mieux vraiment, parce que l'éducation c'est une suite. Le préscolaire, scolaire, fondamental, secondaire. Et aujourd'hui, comme le professeur Djamdine l'a dit, nous devons recadrer depuis au niveau fondamental. Ce système APC, approche par compétences au lycée, doit être revu. Revu de telle sorte aussi à ce que de bons produits puissent parvenir à l'université.
Merci.
De l'université maintenant.
C'est sur ce mot que se referme ce grand dialogue dont le thème est « Comment sortir du retard académique au sein des universités publiques ?» Nos invités étaient Dr Aboubakar Abdelwahidou Meïga, secrétaire principal par intérim de la faculté de lettres, de langue et des sciences de langage de Bamako, Dr Abdelkarim Djamoutene, enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion de Bamako, Boubakar Garba Koulibaly, secrétaire général du comité IAM de la faculté de sciences administratives et politiques, à la régie vidéo Peting Diara, à la mise en onde de Seydou Dawa, à la coordination de ce débat Mohamed Touré. Je suis Imran Akilou à Maïga, chers invités, auditeurs, téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez la possibilité de réécouter ce débat sur le site web www.studiotamani.org. À demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani wa Makara.
Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo du monde.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.